Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir,
Annette.
Bonsoir, Annette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Le gouvernement qui veut soigner la santé mentale des Français.
Mohamed, dans la story du jour.
Je vous explique ce soir pourquoi la vaccination est au point mort en Guyane.
Mathieu, dans le 5 sur 5.
Moi, je vous explique le point commun entre Bob Marley et Kermit la Grenouille.
Parce qu'il y en a un.
Il y en a un.
Ça, c'est un scoop. Mathieu Béliard, Pierre, dans votre œil ce soir.
Vanessa Paradis débute au théâtre et je vous dirai pourquoi sa pièce nous donne une irrésistible envie de se prendre dans les bras les unes les autres, tout le monde.
Vanessa Paradis, qui est notre invitée ce soir. À ses côtés, Eric Elmosnino, qui lui donne la réplique au théâtre. C'est la première fois qu'elle monte sur les planches. Mais aussi Ramzi Bedia, son partenaire au cinéma, dans un film de Samuel Benchetrit, qui est aussi absurde que poétique. On vous en parle. Tout ça autour de la table du dîner de C'est à vous. Dîner préparé ce soir par Ludovic Turac, un chef marseillais aux commandes de la table du Sud. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
J'ai dit des bêtises, vous n'êtes pas marseillais?
Si, c'est parfait. Nickel.
Des queues de langouste ce soir au dîner.
Exactement, dans le cadre de MPG, je vous réalise une petite entrée à base de langoustes cuisinées aux agrumes, un petit jus de bouillabaisse, j'espère que ça va vous plaire.
Merci beaucoup, cher Ludovic, ça va nous plaire forcément. À tout à l'heure, mais d'abord, avant toute chose, l'édito informé de Patrick Cohen. La course à l'Élysée à droite, les Républicains ont enfin choisi la façon de choisir leur candidat.
Voilà, les militants LR ont choisi de s'en remettre aux militants. Seuls les adhérents LR pourront voter lors d'un congrès LR prévu le 4 décembre. Même les centristes de l'UDI resteront à la porte. La primaire restera fermée à double tour. L'autre option qui avait pourtant la faveur d'une majorité de candidats a été rejetée par 58% de votants. C'était celle de primaire ouverte aux sympathisants, comme le font en ce moment les écolos, ou comme LR en 2016, qui avait mobilisé 4,5 millions de personnes pour désigner François Fillon. Mais c'est justement le souvenir du crash de 2017 qui effraie de nombreux militants.
La primaire, elle a laissé des traces, elle crée malheureusement souvent des divisions, des tensions, même si je sais qu'elle a le mérite parfois aussi de créer une dynamique et un élan. Mais on a ce traumatisme de 2016 et on préfère 2007 plutôt que 2016.
Franchement, depuis la présidentielle de 2017, moi, ça fait des années que j'entends la petite musique, on a perdu à cause des primaires, alors que très sincèrement, on a perdu à cause des affaires de François Fillon. Mais voilà, les gens ont entendu ça pendant des années, donc c'est très compliqué de leur dire non, c'est pas la primaire qui est un danger. Donc c'est comme ça.
C'est comme ça, dit cette proche de Valérie Pécresse, sans cacher sa déception face à une décision votée par 23 000 personnes, soit moins d'un tiers des militants LR, puisque la moitié des 79 000 adhérents se sont abstenus.
Et ce sont les mêmes qui voteront les 4 décembre prochains ?
Presque, pas tout à fait, puisque seront admis au vote tous les adhérents de plus de 15 jours. Et donc Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui ont tous deux claqué la porte du parti, qui normalement ne peuvent pas voter à leur propre désignation, devraient inciter leur soutien à reprendre leur carte LR. Ils ont 2 mois pour le faire jusqu'au 20 novembre, à 30 euros l'adhésion, 40 euros pour un couple, 15% pour les chômeurs ou les étudiants.
C'est défiscalisé ?
Oui, c'est défiscalisé, absolument. C'est sur la page d'accueil de LR, je suis allé voir tout à l'heure. C'est aussi 15 euros pour les moins de 35 ans.
Question de Raphaël Antoven, qu'on salue dans un instant.
Pour les plus jeunes, mais aucune réduction n'est prévu pour voter à cette primaire.
Ce sera donc bien une primaire qui va désigner le candidat?
Surtout pas. Ou alors ne le dites pas à Xavier Bertrand, candidat jusqu'au bout, il l'a dit 40 fois, qui ne veut pas se soumettre à la loi des partis et qui ne s'est toujours pas exprimé depuis la décision des Républicains samedi. Son premier tweet samedi soir a été pour signaler sa présence à la fête du haricot de Soissons et on le voit sur une autre image à la confrérie du haricot. Voilà. Ici, sous la tribune. En réalité, Xavier Bertrand entend imposer ses conditions, pas de débat télévisé entre concurrents, et si possible, pas de concurrents du tout. Le président des Hauts-de-France veut bien repasser par LR, mais pour un congrès de ratification, pas d'affrontement, il veut un soutien pas une compétition, ce qui suppose d'ici là un abandon et un ralliement de Valérie Pécresse,
quelle
notamment
conséquence...
pas gagnée.
Oui, pardon, quelles conséquences pour la campagne à droite, Patrick ?
Une campagne tardive, rétrécie et forcément très à droite. Au lieu de parler aux Français, les prétendants à l'air vont pendant 2 mois faire la tournée des fédérations pour séduire ces quelques dizaines de milliers de militants, les mêmes que ceux qui ont élu Laurent Wauquiez, puis Christian Jacob, lequel jugeait Christian Jacob hier qu'Éric Zemmour n'était ni raciste ni d'extrême droite. Or, plus une base militante est étroite, plus les discours pour la draguer versent dans la caricature, la facilité ou la radicalité, surtout quand un Zemmour, en même moment, grignote vos parts de marché et que la droite n'a toujours aucune certitude de se rassembler à la fin de l'année. Bref, face à un problème inextricable, la droite a sans doute choisi la plus mauvaise des solutions.
Bonsoir Raphaël Antoine.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci
à tous
de votre présence. On vous avec connaît, philosophe et éditorialiste, cofondateur même d'un nouveau magazine hebdomadaire, oui. Franc-tireur, manifeste contre l'obscurantisme. On y revient. Que dirait un franc-tireur sur la façon dont on s'organise ses primaires
à droite ?
Je ne sais pas.
On ne l'a pas encore traité, cette question-là. Mais c'est vrai que ce qui se passe là en ce moment à LR est extraordinaire, parce que ce sont les soubresauts d'un corps mort qui ne se sait pas encore mort, en fait, c'est ça. C'est extraordinaire.
Ou qui sait trop qu'il est mort ?
Comme la plupart des partis en France.
Mais comme le PS et LR, en tout cas. C'est-à-dire comme le PS et LR. L'agonie, l'indéfinie agonie de ces deux partis est en elle-même un motif littéraire, je trouve.
Sans aucune possibilité de résurrection,
je ne vois pas comment. Moi, je ne vois aucun... Je peux me tromper, mais je ne vois aucun scénario où la droite revient au pouvoir par la droite. Ou bien où la gauche revient au pouvoir par la gauche. Pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que la grande question que se posent les gens en politique, ça a été pendant longtemps, suis-je de droite ou suis-je de gauche ? Est-ce que je préfère la liberté ou l'égalité ? Enfin bon, aujourd'hui la grande question c'est dois-je m'ouvrir ou dois-je me fermer sur mon précaré ? Et cette question-là fait exploser le clivage droite-gauche depuis de longues années déjà, et la façon dont ces partis refusent de mourir et agonisent quand même a quelque chose de pathétique.
Pourtant aux élections régionales,
bien sûr.
Le clivage a fonctionné, la gauche a repris les couleurs, LR également.
Ce qui prolonge l'agonie. Effectivement.
Ah oui,
on prolonge l'agonie, c'est un sursis, parce qu'évidemment, au régional, ça met plus de temps. Des partis de notables implantés depuis des décennies mettent plus de temps à disparaître.
Il y a eu des nouvelles têtes. Hein.
Quelques-unes, franchement.
Et sur le fait de...
Ah bon, peut-être. Hein.
Et sur le fait de ne pas vouloir une primaire à droite, comme celle qui avait rencontré un franc succès pour la dernière élection présidentielle en 2016.
4 millions au premier tour, 4 millions 4 au deuxième.
Oui, écoutez, c'était le spectacle qu'ils avaient offert, le spectacle de la primaire en 2017 était décent. Il y avait un vrai débat d'idées, il y avait un vrai affrontement.
Ce qui n'aura pas le cas.
Et il y avait un candidat qui, s'il n'avait pas explosé en vol, était un candidat consistant. Enfin, il avait une proposition politique. On adhère, on n'adhère pas, mais il y avait quelque chose. Et il avait le plébiscite de millions de gens derrière lui. Là, on va avoir un candidat croupion qui va singer Éric Zemmour tant qu'il pourra, jusqu'au moment... Enfin bon, je vois pas comment ils peuvent se sortir de cette affaire. Xavier Bertrand avait l'audace des conquérants quand ils voulaient échapper au jeu de la primaire. Je ne comprends pas comment il a fait pour se faire rattraper par ce système-là.
Ah ben oui, il s'est mis dans une impasse. Mais son raisonnement de départ était
Oui, il voulait la ratification, mais c'est absurde.
Non, mais son raisonnement de départ, c'est de dire il ne faut pas passer par le prisme des partis.
Par l'entonnoir des partis.
Ça rétrécit le débat. Donc je m'adresse à la France, mais après, comment on fait pour départager les candidats ? Et donc on est dans cette impasse-là.
Un candidat LR qui sera condamné à singer, un candidat croupion qui sera condamné à singer Éric Zemmour, qui n'est ni raciste ni d'extrême droite, selon Christian Jacob, le patron des Républicains. Éric Zemmour qui s'exprimait encore ce week-end sur Europe 1.
Si on est gaulliste, on pense que ce n'est pas la France qui, ce jour-là, a arrêté ces Juifs. Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. Que aujourd'hui, on trouve ça abominable. Et c'est abominable, puisque ces pauvres gens sont morts.
Grâce comment? À des policiers, et malgré Vichy, malgré
c'est
Pétain, malgré Hollande, malgré Bousquet.
Mais bien sûr, les Français ont sauvé des Juifs. Mais le principe même de la zone libre a sauvé des Juifs.
Des mots qui depuis hier provoquent de vives réactions, comme celle de Valérie Pécresse qui les a qualifiés d'abjects. Comment lutter contre ce genre d'idées qui sont obscurantistes ?
Alors, on peut lutter par l'indignation. On peut s'indigner. Il est aisé de s'indigner devant la parole de quelqu'un qui dit que Vichy a protégé les Juifs. On peut aisément s'indigner et opposer un certain nombre de faits historiques incontestables. Le pays de la rafle du Veldiv... Enfin bon, bref, on peut s'indigner. On peut aussi observer que Éric Zemmour a dit que la rafle du Veldiv, c'était pas la France, tout en expliquant par ailleurs, tout en souscrivant par ailleurs à la thèse selon laquelle Pétain était le bouclier et De Gaulle le glaive. Donc, de temps en temps, Vichy, c'est la France, de temps en temps, ça n'est plus la France. Je trouve plus efficace de pointer les contradictions spectaculaires d'Éric Zemmour, qui apparaissent très vite, dès qu'on creuse un peu, plutôt que de s'abriter derrière une posture indignée et de brandir des valeurs absolues dont on s'étonne que les gens passent à côté, en fait.
Donc, il faut débattre avec Éric Zemmour.
Toujours bon de rappeler quand même...
C'est très utile.
Les vérités de l'histoire, absolument, et celles des historiens et de ceux qui ont travaillé sur cette période. Enfin, c'est toujours utile quand on veut se documenter.
Bien sûr, c'est l'occasion. Vous avez raison, bien sûr, c'est l'occasion de le faire. Mais le fait qu'ils se contredisent, pointer les contradictions d'Éric Zemmour me paraît plus efficace contre Éric Zemmour que s'indigner des propos d'Éric Zemmour. Même si là, en l'occurrence, franchement.
Bon. Donc, aller débattre, contredire ce que vous avez fait à plusieurs reprises, d'ailleurs, ce qu'on vous a reproché.
Oui, alors ce qui est assez drôle, c'est que
en vous accusant de faire le jeu de l'extrême droite. Vous avez eu raison de débattre avec lui avant tout le monde, en quelque sorte ?
Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui m'ont vivement reproché d'aller débattre avec Zemmour, qui m'ont agonie, qui m'ont pourri, mais je n'ai jamais reçu autant d'insultes de ma vie, sont les gens qui applaudissaient à tout rompre le fait que Jean-Luc Mélenchon aille enfin courageusement débattre avec l'extrême droite, contrairement à tous ces planqués à gauche qui préfèrent le maudire de loin. Si vous voulez. Et je suis fasciné de voir à quel point les gens retournent leur veste sans même le savoir. Parce qu'ils étaient sincères dans leur détestation comme ils sont sincères dans leur adoration. Mais quand on pointe le fait que le même geste a été tantôt par eux détesté et désormais adoré, eh bien, il n'y a plus personne. Et ça me fascine. Après, oui, face à Zemmour, il faut débattre, il faut discuter, il y a une proposition.
Le contredire, débattre avec lui, on dirait qu'il est toujours au centre du jeu. C'est toujours Zemmour...
Vous avez d'autant plus raison que pour débattre avec Zemmour pendant longtemps, parce qu'il était ostracisé sur le service public, il fallait aller sur CNews, c'est-à-dire il fallait aller sur son terrain. Et aller sur son terrain, c'était par exemple dans mon cas, oublier que, contrairement au débat présidentiel, vous n'êtes pas champ contre champ, par exemple, dans un débat avec Zemmour. Donc vous êtes filmé quand vous ne parlez pas. Comme moi, je prenais des notes quand je ne parlais pas, j'avais l'air du Mélenchon anxieux, si vous voulez, qui prend des notes devant un adversaire serein. Ce sont des choses qu'il faut savoir, parce qu'on joue sur son terrain. Peu importe, si vous voulez, peu importe. L'enjeu n'est pas de le rendre central, c'est de pointer des contradictions. Qu'après, ça, ces propos soient tellement outranciers que par leur existence même, ils vampirisent le débat, c'est presque naturel.
Mais est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui débat existe-t-il vraiment ? Est-ce que ce n'est pas trop souvent deux monologues juxtaposés, si possible en hurlant ?
C'est l'expression de Deleuze. Dans Pourparlers, il disait il n'y a pas de débat en démocratie, il n'y a que des monologues nerveux qui se juxtaposent. Et effectivement, j'ai plutôt ce sentiment-là. On fait à la fois grand cas du débat en démocratie et on le rend impossible. Parce qu'en général, les débatteurs sont mandatés par leurs ouailles pour défendre une ligne idéologique. Et donc, en somme, on a la juxtaposition de lignes idéologiques, hermétiques l'une à l'autre, délibérément hermétiques l'une à l'autre, et qui se satisfont de parler autant que l'adversaire.
C'est ce qui s'est passé jeudi, non ?
C'est ce qui s'est passé jeudi.
Jeudi soir sur BFM TV, entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.
Bien sûr.
Comment débattre en France ?
C'était caricaturalement ce qui s'était passé jeudi, d'ailleurs. Mmh. Et ça se passe aussi, pardon, j'y pense maintenant, mais sur les réseaux sociaux. Twitter célèbre le débat et le rend impossible à la seconde où on s'en approche. À la seconde où il y a la possibilité d'un échange, immédiatement, les gens sont rattrapés par la brigade en disant « mais tu peux pas parler avec lui, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça ». Et l'invective vient pour rassurer la meute, finalement, couvrir la possibilité d'un échange véritable.
Vous êtes encore sur les réseaux sociaux ?
Oui, bien sûr.
Oui ? Donc vous continuez à tenter de débattre ?
Oui, bien sûr. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Mais écoutez, il faut bien passer sa vie à quelque chose. Moi, je mets des coups d'épée dans l'eau.
Comment débattre ensemble en France ? C'est de plus en plus difficile. Témoin ce qui est arrivé ce matin à Emmanuel Macron. Le président de la République visitait le Salon international de la restauration à Lyon.
Bonjour, messieurs, dames.
Lancer un œuf plutôt que d'entamer un dialogue, c'est nier l'idée même qu'on puisse débattre. C'est surtout que la radicalité a pris le pas sur la nuance ?
Oui, enfin, c'est surtout très con, pardon. Hein, je veux dire, je trouve que vous faites beaucoup d'honneur au lanceur 2 en lui disant que la radicalité en lui a pris le dessus sur la nuance. C'est la connerie qui a pris le dessus sur le reste, si vous voulez. Il a lancé un œuf dur sur le président. Ce qui est terrifiant, si vous voulez, quand on voit l'œuf arriver, là, c'est de penser qu'il aurait pu l'envoyer n'importe quoi, en fait.
Il y a eu la gifle avant.
Il y a eu la gifle, absolument.
Ça, c'était le 8 juin dernier.
Oui, non, c'est vraiment un métier dangereux, un président.
D'être président de la République.
Oui, oui, manifestement, oui.
Et sur l'absence de mesures, de nuances, cette radicalité, c'est un mot qu'on entend beaucoup, 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 à toutes les sauces d'ailleurs.
Il y a dans l'homme révolté que j'ai apporté, juste pour qu'on le voit encore, dans l'homme révolté, Camus a une nuance que je trouve très importante, justement sur la il distingue la mesure et la nuance, et il observe que les radicalités sont des positions confortables. C'est très confortable, ce sont des positions bourgeoises en somme. Et d'ailleurs, c'était les grands bourgeois, les sartriens, qui lui faisaient le reproche à lui, petit homme d'Alger, né dans la misère, il ne lui pardonnait pas ça. C'était les grands bourgeois snobs, normaliens, agrégés, etc., qui le snobaient. Et lui est venue l'idée que la radicalité était l'expression d'un confort. Le tout ou rien est une disposition confortable du caractère, parce que ça donne une perception héroïque de sa propre démarche, tout en se satisfaisant que rien ne change, puisque tout n'a pas changé. Si vous voulez. Donc la radicalité, et Camus est le premier à avoir pointé ce qu'il y a de bourgeois, d'endormi, de confortable dans la radicalité.
C'est une posture.
C'est une posture. C'est pour ça qu'il distingue la révolte de l'indignation. L'indignation, c'est ce qui vous donne bonne conscience et vous permet de dormir peinard. La révolte, c'est l'intranquillité qui vous réveille dans la nuit parce que vous êtes sensible aux douleurs qui vous sont épargnées. Et alors, il distingue tout ça de la mesure. Dans le dernier chapitre de L'homme révolté, il parle de la mesure, et souvent on dit la mesure c'est l'effet d'un compromis, c'est le oui d'accord mais enfin tout de même, c'est une sorte de hollandisme politique si vous voulez, qui consiste à ne déplaire à personne, c'est une motion du PS si vous voulez la mesure.
Une synthèse.
Eh bien, alors, ce qui est beau chez Camus si vous voulez, c'est que la mesure c'est... l'intranquillité face aux pensées radicales, c'est-à-dire le refus de s'endormir derrière le sentiment qu'on a raison une fois pour toutes, c'est le fait de dire oui avant de dire non. Quand on se révolte pour quelque chose avant de se révolter contre. Parce que si vous vous révoltez pour, vous devez vous imposer l'effort de donner des contours à votre projet. Vous avez un projet, vous n'avez pas qu'un rejet. Et puis la mesure, c'est aussi la mesure dans les moyens qu'on emploie. Par exemple, dans Les Justes, Camus raconte que des terroristes s'apprêtent à jeter une grenade sur la calèche du tsar avant de s'apercevoir qu'il y a un enfant dans la calèche. Et là, la mesure impose dans la révolte, cette intranquillité, impose dans la révolte de retenir son bras à ce moment-là. Et c'est là que cet homme-là est magnifique, parce que, si vous voulez, ce qu'il dit de la mesure, il fait de la mesure la plus haute exigence éthique, la plus haute, la chose la plus difficile à atteindre. Et le problème, c'est que la traduction politique de ça, c'est la social-démocratie bien-pensante, si vous voulez. C'est qu'en gros, concrètement, quand on est camusien, bah, on dit oui, d'accord, mais enfin tout de même. Alors que quand on lit L'homme révolté, on tremble, on vibre, et on comprend que ce qu'il appelle la mesure n'a rien d'un compromis, mais c'est au contraire une façon de se tenir sur la crête comme le caillou de Sisyphe.
Pour une campagne intéressante, libre et en même temps respectueuse, le quotidien La Croix, dans son supplément hebdo, a lancé un appel ce week-end en demandant effectivement que tout soit bien réglé. Ils ont proposé 10 commandements. Alors c'est vrai que ça laisse un peu rêveur. Ils demandent par exemple qu'on débatte sans relayer de fausses infos, ne pas s'injurier, s'humilier, diffamer. Et aussi, tâche quasi impossible, attention, écouter le point de vue de l'autre jusqu'au bout. Donc on croit rêver, plus d'une centaine de personnalités, dont vous n'êtes pas pour l'instant, philosophes, journalistes, politiques, artistes, écrivains, ont déjà signé cet appel à la mesure. Vous pensez que ça va être efficace et qu'ils vont être entendus ?
Non. Ben non. Je pense que ça ne va pas être efficace. Je pense que c'est une bonne chose de le faire.
Bien sûr,
ça doit donner bonne morale, conscience aux gens qui le signent, c'est très bien. Mais je ne pense pas qu'il soit entendu. En démocratie, les gens ont envie de s'opposer. Ils n'ont pas envie de se contredire. Ils ont envie de se détester. Ils ont envie de se sentir, de s'identifier à ce qu'ils croient. Rien n'est plus utopique qu'un débat rationnel,
sans injure,
argumenté.
Sans
injure, ça, on peut y arriver. Oui. La civilité fonctionne. Mais un débat où, au terme duquel, les deux débatteurs peuvent dire à l'autre, sur ce coup-là, c'est vous qui avez eu raison et j'ai appris quelque chose grâce à vous. C'est ça qu'il faudrait obtenir.
En France
Oui, mais même ailleurs, c'est rare ici.
En Allemagne. Les élections allemandes, regardez, vous avez vu les débats en Allemagne.
C'est vrai. Je suis obligé de dire. C'est vrai. Alors, cela dit, ce qui est beau dans cette histoire, c'est le désir de nuance. Et je veux citer Camus encore, parce que c'est pas L'homme révolté, c'est dans Les lettres à un ami allemand. Camus, 4 lettres à un ami nazi, enfin, dont il découvre qu'il est nazi, et Camus lui dit, il parle de la patrie, il parle de la guerre, et Camus lui dit, nous vous sommes supérieurs parce que, Écoutez ça, j'ai noté la phrase. Nous luttons pour cette nuance qui sépare le sacrifice de la mystique, l'énergie de la violence, la force de la cruauté, pour cette plus faible nuance encore qui sépare le faux du vrai et l'homme que nous espérons des dieux lâches que vous révérez. Et être camusien aujourd'hui, c'est lutter pour la nuance qui sépare le racisme du blasphème, ce qui humilie et ce qui choque, la tolérance du laisser-faire, laisser-passer n'importe quoi, ou la révolte de l'indignation. Il y a tant de nuances à faire valoir, qui sont des nuances délicates, mais décisives à chaque fois. On a besoin d'expliquer en permanence la différence entre le blasphème et le racisme. Défendre la nuance, ça n'est pas simplement être nuancé dans ses affirmations, c'est faire valoir des nuances qui sont des bifurcations décisives, et qui, quand on ne les fait pas, à ce moment-là, produisent des amalgames délétères.
Franc Tireur, l'hebdomadaire que vous allez, auquel vous allez les participer avec Caroline Fourest et Christophe Barbier, ça sera
et
quoi ça sera dans la nuance, justement, parce que Franc Tireur, quand on dit Franc Tireur, c'est un peu les anciens combattants qui n'étaient pas vraiment dans la nuance.
Alors, non, on est le oui, non, c'est autre chose. La nuance, oui, mais au sens camusien du terme, c'est la nuance pour laquelle on lutte. C'est-à-dire qu'il y a de la nuance, mais il y a du combat dans l'histoire quand même. C'est un magazine qui est né du sentiment qu'on n'en pouvait plus des Yaka Faucon, des charlatans médecins, des gens qui se déguisent en laïcs pour taper sur les musulmans, des indigènes de la République, des fausses féministes qui n'ont rien à redire aux femmes qu'on enferme à Téhéran, mais qui s'indignent d'une mini-jupe. Enfin bref, il y a une sorte de... Ou qui défendent pas Mila, bref. C'est cette espèce de vaste n'importe quoi produit une lassitude. Nous avions cette lassitude en commun. Et le magazine, l'idée du magazine, l'idée du journal, est née d'une lassitude commune. Et donc, on a appelé des gens dont on présume que le même genre de choses les énerve. Et chose extraordinaire, ça c'est la merveille des aventures de presse, quoi. Les gens qu'on a réunis ne se connaissaient pas, pour la plupart. Ils se connaissaient, mais ils se connaissaient pas. Et ils étaient tellement heureux de se rencontrer. On a créé une famille, en fait. C'est un truc merveilleux. Donc, pour l'instant, ce sont des réunions préparatoires.
Numéro en novembre.
Voilà. Pour l'heure, on est dans la fabrication, dans la confection des numéros zéro. On a toutes les galères logistiques, etc. C'est très amusant. C'est très gai. Et c'est surtout, on est en très bonne compagnie. C'est-à-dire que on n'est pas tous d'accord sur tout, mais on est vraiment d'accord sur l'essentiel. Et il y a une ambiance merveilleuse. C'est tout ce que je peux dire.
En attendant le premier numéro de Franc Tireur, toujours bon à lire ou à relire, L'homme révolté de Camus.
Le dernier chapitre. La Pensée de midi.
La Pensée de midi et L'école des dames. Ça, c'est votre dernier livre aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous, Raphaël Antoven. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Raphaël.
Jamais depuis le début de l'épidémie, la Guyane n'avait fait face à une telle situation.
61 décès depuis 46 jours. La morgue de Saint-Laurent-du-Maroni est saturée. Jamais depuis le début de l'épidémie, la Guyane avait enregistré autant de décès et d'admissions en réanimation. Le département traverse actuellement une quatrième vague de Covid. C'est tout simplement la vague la plus violente. La Guyane est le département ayant le plus faible taux de vaccination en France. 30% des Guyanais âgés de 12 ans et plus sont vaccinés contre 83% en France métropolitaine. Dans ces circonstances, les propos de l'ancienne garde des Sceaux et députée de la Guyane, Christiane Taubira, ont suscité l'incompréhension.
Je n'ai pas vocation à appeler à vacciner.
Bien sûr que si, vous êtes un responsable politique.
Mais je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement, soit de donner une consigne, soit de considérer que, au regard de ces éléments d'information, je considère que je tiens un propos responsable. Oui.
Dans la foulée, Christine Taubira s'est justifiée sur Twitter en rappelant qu'elle l'avait précisé sur notre plateau, qu'elle était vaccinée. D'autres élus, comme le président de la région, vont plus loin en expliquant qu'ils n'ont pas été élus sur les sujets des injections visant à lutter contre la pandémie. Une sortie médiatique qui a créé la polémique en métropole et en Guyane.
Je ne peux pas appeler clairement la population de Guyane à être vaccinée parce que je ne suis pas particulièrement convaincu que c'est la démarche qu'il faut que j'initie aujourd'hui, dans la mesure où je vous le dis que ce sujet-là ne faisait pas partie de ma campagne et qu'au sein de ma majorité, il y a autant de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées.
Les lits de réanimation de l'hôpital Saint-Laurent du Maroni sont saturés, le personnel est épuisé et insuffisant. L'hôpital tourne à 99% de ses capacités. Une situation critique qui a entraîné la venue en urgence du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. D'autres voix en Guyane appellent à une révolte sanitaire pour mettre fin à cette crise sans précédent.
Bon, je pense que la raison doit finir par l'emporter. Moi, j'ai jamais caché que j'étais pour la vaccination. Je suis vacciné. Je ne peux que recommander à mes compatriotes d'y aller. C'est un traitement efficace, prouvé. Il faut qu'ils y aillent.
Les enfants sont aussi touchés par des formes graves du Covid-19. L'hôpital de Cayenne a même dû ouvrir une unité spéciale avec des soignants, notamment venus de l'Hexagone, avec un personnel encore insuffisant. Raphaël Enthoven, des soignants se mettent en arrêt maladie, certains sont en dépression. Selon vous, les responsables politiques ont-ils obligation d'appeler à la vaccination?
Non, personne n'est obligé de rien, mais ne pas le faire est irresponsable. Tout simplement, ce sont des irresponsables politiques, à mon avis en tout cas. Christiane Taubira ou M. Serville, ces gens-là, c'est étonnant ce nom d'ailleurs, je l'entends à l'instant en fait, mais ces gens-là ont une trouille de déplaire qui leur vaut en la circonstance de mettre des vies en danger. Quand on vise bas, on se plante, mais là ça coûte des vies, je trouve ça ahurissant en fait. Je trouve que c'est la misère de la politique, à mon sens. Obligés. Ils sont obligés par eux-mêmes, sauf qu'eux-mêmes ne s'y sentent pas contraints.
Les arguments de Christiane Taubira ne vous...
Elle n'a aucun argument. Elle dit « j'ai pas les éléments d'information ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « j'ai pas les éléments d'information » Il y a 8 personnes sur 10 en réa n'est pas vaccinée. Qu'est-ce que c'est les éléments d'information? Il n'y a pas besoin d'éléments d'information. On sait tous tout ce qu'il faut savoir. Christiane Taubira, avec l'audience qui est la sienne, les gens qui la regardent, la responsabilité qui est la sienne, qu'elle ne prenne pas le risque minimal de dire aux Guyanais « vaccinez-vous, c'est une question de vie ou de mort, vaccinez-vous », qu'elle ne prenne pas ce risque-là, ça me paraît ahurissant. Et surtout, cette façon qu'elle a d'éviter les emmerdes et d'en récolter deux fois plus, en fait. C'est vrai. Voilà, quand on vise bas, on se plante.
Merci Mohamed Bouabsi. À tout à l'heure pour la Story Média. Émilie, l'épidémie de Covid-19 qui a mis un coup de projecteur sur des troubles psychiques, sur la santé mentale des Français.
Avez-vous bien dormi cette nuit, Babette?
Oui, mais enfin...
Pardon, j'ai en tout cas, de moins en moins de gens peuvent répondre oui. 63% des Français déclarent avoir des problèmes de sommeil, 14 points de plus qu'avant le Covid. Et autant que pendant le premier confinement, chiffre publié la semaine dernière, 10% ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Ça monte jusqu'à 30% chez les moins de 24 ans pour dire qu'ils ont déjà pensé au suicide. Pourtant, en France, on est parfois incapable de prendre en charge un adolescent qui pense mettre fin à ses jours.
Quand, par exemple, un adolescent doit être hospitalisé parce que, par exemple, il y a un risque suicidaire majeur et qu'on passe l'après-midi ou des heures à chercher un lit d'hospitalisation pour finir par dire à ses parents et aux jeunes qu'il doit rentrer chez lui parce qu'on n'a pas de place, c'est particulièrement préoccupant, source de tension pour nous et assez douloureux de travailler dans ces conditions.
L'histoire que raconte cette pédopsychiatre se traduit aussi en chiffres. Le nombre de lits en psychiatrie n'a fait que baisser depuis 1975. Regardez cette courbe, 137 735 lits en 75, 56 000 en 2017. Pourtant, avec deux fois plus de lits déjà dans les années 70, les soignants manquaient de bras.
Combien vous devriez
faire ça? Oh, je sais pas, ici à l'étage, on devrait au moins être quatre à l'étage tous les jours. Deux. Plus la surveillante qui fait le rôle de l'infirmière le matin.
1970-2021, le Covid est passé par là. Olivier Véran a donc lancé des assises de la santé mentale et de la psychiatrie ce matin. En grande pompe, évidemment, derrière un beau pupitre.
Je sais déjà que cet événement fera date dans la vie de ce ministère et bien au-delà pour nos politiques de santé.
Ne vous fiez pas à cette pancarte-là, préfet de l'Isère, c'est bien le ministre de la Santé qui parle, même s'il est un peu à contre-jour et qu'on le voit mal, pour présenter des assises qu'il veut pourtant historiques. Principale annonce pour le moment, un numéro national de prévention du suicide, gratuit, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui sera effectif dès le 1er novembre. On est loin, en tout cas, de ce qu'attendait ce psychiatre.
On peut mettre en place tous les numéros de téléphone qu'on veut. S'il n'y a pas des gens pour être là auprès des personnes les plus en difficulté, ça ne marchera pas. C'est ça le problème, c'est-à-dire que dans ces assises, il va y avoir tout un tas de gens qui vont être invités. C'est le même programme que les programmes des grands congrès. Les thèmes, c'est les mêmes thèmes que de tous les rapports de la psychiatrie et surtout de la santé mentale depuis 20 ans. Et donc, si vous voulez, c'est une mascarade, hein.
Pour évoquer les conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des Français, mais aussi les conditions de travail des médecins et notamment les urgentistes, le nouveau Michel Simès de Marina Carrère d'En Cause. Tous les jours en direct sur France 5 dans le magazine de la santé, Jimmy Mohamed est ce soir notre invité. Jimmy Mohamed,
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous, médecin généraliste pour SOS Médecin et désormais aux côtés de Marina Carrà-Dancos, tous les jours sur le plateau du magazine de la Santé sur France 5. Vous avez continué les consultations pendant toute la crise du Covid. Vous avez constaté, vous aussi, les dégâts psychologiques de cette pandémie chez les patients.
Oui, il y a des éléments à la fois subjectifs et objectifs. Objectifs, on le voit, les Français vont moins bien et vous citiez justement ces 30% de moins de 24 ans qui ont pensé une fois au suicide. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on regarde? On voit que le nombre de prescriptions sur 2021, les nouvelles prescriptions d'anxiolytiques, de somnifères, d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques ont bondi de 15 à 30%. Ça veut dire que lorsque vous n'allez pas bien, lorsque vous avez des difficultés pour dormir, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi vous ne dormez pas, on vous donne des somnifères.
Et donc on ne
va pas résoudre
le
problème. Oui, sauf qu'on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que finalement, la psychiatrie, c'est la cinquième, voire la dixième roue du carrosse. Les soins en psychiatrie en France, c'est comme dans le tiers-monde. Regardez ce qui se passe dans les prisons. Vous avez des malades qui n'ont strictement rien à faire dans les prisons, qu'on met là parce qu'on n'a pas de place ailleurs. Et donc, la psychiatrie, encore une fois, elle est mise de côté alors que les malades sont là. Et l'entourage aussi, parce que souvent, ce sont aussi les familles qui se retrouvent isolées en détresse. Elles finissent par atterrir aux urgences, encombrant le système. C'est le serpent qui se mord la queue.
Le numéro de téléphone, ça sert pas à rien.
Alors, je ne sais pas si ça sert à rien, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est un peu dans un gouvernement qui nous met une cinquième ligne téléphonique, un problème, une ligne téléphonique. Mais le psychiatre le disait très bien. Si derrière, vous appelez, imaginez une situation de détresse. Vous dites, j'ai des pensées noires. Je pense que j'ai envie de me suicider. Si derrière, vous n'avez pas un médecin qui peut vous accueillir, vous n'avez pas une structure, vous n'avez pas des lits, eh bien, la ligne téléphonique, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Derrière, il faut des lits. Et pour faire des lits, il faut recruter à la fois des médecins, mais aussi du personnel paramédical. Les infirmiers désertent les hôpitaux.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas attractif. Ce n'est pas attractif. Premièrement, ils ne sont pas assez payés, les infirmiers. Il y a une revalorisation du Ségur, mais c'est clairement insuffisant. Et deux, regardez les conditions dans lesquelles elles vont travailler. C'est absolument lamentable. Mais parfois, vous avez des aides-soignantes qui vont se substituer aux infirmières. Et derrière, c'est des soins qui vont être dégradés avec, encore une fois, les patients au milieu de tout ça qui vont souffrir de ce manque de...
Les psys, 30% de postes vacants, les futurs médecins ne veulent pas devenir psychiatres.
Ah, ça, c'est affligeant. Vous savez, on va expliquer aux téléspectateurs, en 6e année de médecine, vous avez le concours de l'internat. Tous les étudiants passent un concours. En fonction de votre classement, vous choisissez la ville où vous allez exercer et la spécialité. Eh bien, la psychiatrie, sur 44 spécialités, est classée numéro 40. Ça veut dire qu'on ne prend pas les postes de psychiatrie parce qu'ils ont bien compris que c'est pas terrible d'être psychiatre en ce moment. Et en plus de ça, on se retrouve avec 15% de postes vacants. Donc non seulement on manque de psychiatres, mais en plus de ça, dans les années à venir, on va en former de moins en moins. Le problème, il semble un peu insoluble.
Vous êtes médecin généraliste pour SOS Médecin Paris. Et ce soir, pour la première fois depuis 8 ans, vous ne prendrez pas votre garde. Tout SOS Médecin, l'intégralité d'SOS Médecin sur l'ensemble du territoire est à l'arrêt total pour 24 heures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à peu près combien de visites n'auront pas lieu ?
SOS Médecin, c'est 3 millions de visites chaque année. Vous divisez par 365, vous avez le nombre de visites. Mais en plus de ça, on fait 6 millions d'appels. C'est-à-dire qu'au-delà de la visite, on fait aussi du conseil. Donc malheureusement, on est désolé de ça et vraiment, je suis navré parce que ce n'est pas notre ADN de faire la grève. Moi, je travaille à SOS Médecin depuis 2013. J'aime SOS Médecin. Je suis content d'aller...
Tant qu'SOS était né, je crois, de quelqu'un qui n'avait pas réussi à être soigné en
55 ans, Marcel Lascar, fort des soins SOS Médecin, puisqu'il s'est rendu compte qu'il était plus facile d'avoir un plombier qu'un médecin. Résultat, après une crise Covid, on a été envoyé au charbon. J'ai des amis médecins qui ont été en réanimation parce qu'on nous a envoyés sans masque, sans protection, alors que le SAMU venait en scaphandre. Nous, on allait avec notre petite mallette. Donc, il y a eu des choses. On rend une mission de service public. Lorsque vous avez des personnes âgées, polypathologiques, dépendantes, lorsqu'on est appelé dans des EHPAD, lorsqu'on fait aussi des certificats de décès, lorsqu'on a des mamans ou des papas qui ont des enfants malades qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, eh bien, cette mission de service public, avec le temps, on ne peut plus la remplir. Et qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi ? Parce que,
on va dire les choses clairement, la visite à domicile n'est absolument pas viable et rentable dans l'état actuel des choses. Pour faire simple, lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, la consultation, c'est 25 euros. La majoration de déplacement en journée pour un médecin des SOS Médecins qui vient, c'est 10 euros de plus, c'est-à-dire 35 euros. Une visite, elle va vous prendre en moyenne entre 30 et 45 minutes, puisqu'on sait que forcément, il faut trouver l'adresse, mais ça, c'est notre problème.
La place.
Les places, exactement, la circulation. Résultat, les nouveaux médecins ne veulent plus venir à SOS Médecins. Donc, on risque à terme, une fois que la population vieillit, de ne plus avoir les médecins qui soient remplacés, puisque l'activité n'est plus attractive. Et donc, par conséquent, les gens, ils iront aux urgences. Ils ne seront pas à domicile. Ils vont refuser des soins. Et encore une fois, c'est le patient qui va payer tout ça.
Et quelle est la solution ? Vous demandiez une revalorisation de la visite à domicile. Et ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas été entendu.
Non.
On incite les médecins traitants à aller à domicile.
Ils sont débordés, les médecins traitants.
Moyennant une prime annuelle, 4 fois 70 euros.
Exactement.
Ce qui est quand même déjà pas extraordinaire.
Au début de l'épidémie, ça avait été revalorisé.
Exactement. 57,60 euros. Alors, on peut se poser la question. On dit, c'est vrai que 57,60 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais derrière, évidemment, comme tout médecin libéraux, on paye des charges. Il ne reste pas 57 euros dans la poche du médecin. Mais derrière, une fois que c'est passé, on repasse sur les 35 euros. Bah, le patient, il va appeler ce médecin. Nous, on ne peut pas répondre à la demande puisqu'on a de moins en moins de médecins. On travaille parfois dans des conditions difficiles. On va dans des zones où certains ne vont pas. On a des choses à améliorer, ça c'est sûr et certain. Mais la demande, c'est qu'au minimum, ce soit une visite urgente à 57,60, remboursée pour le patient. Et puis la nuit, vous savez, le soir, la différence entre le tarif de consultation et de visite, il est 3,50 €. Ça veut dire qu'un médecin, lorsqu'il se déplace à minuit, s'il était en téléconsultation ou s'il vient à domicile, eh bien le delta de 3,50 €. Je pense que on n'est pas en train de demander...
Ça veut dire qu'en gros, tout le monde va finir par se retrouver aux urgences.
Ah bah ça va être un des dégâts collatéraux, puisque quand vous appelez ce médecin, c'est que vous n'avez pas trouvé d'autre solution. Parce que finalement, la personne âgée, elle se dit « je suis mieux à domicile ». Et moi, j'ai des patients qui refusent à tout prix d'aller à l'hôpital, même quand leur état le requiert. Et nous, on fait tout pour les laisser à domicile. On envoie des infirmières pour faire des bilans, on fait au maximum. Sauf que derrière, les patients, ils vont négliger les soins, ils vont arriver aux urgences. Ou alors, ça va coûter plus cher à la collectivité, on pourrait avoir un œil économique. La demande des médecins va coûter de l'argent. Mais si demain, vous allez tous aux urgences au lieu d'appeler les SOS médecins, ça coûtera 3 à 4 fois plus cher à la collectivité. C'est perdant-perdant.
La médecine à domicile risque de disparaître, là, Jimmy Mohamed ?
Elle a quasiment disparu. SOS médecins, c'est quasiment le seul acteur de la visite à domicile en France depuis 55 ans. On réalise des visites 365 jours par an, 7 jours sur 7. On doit s'améliorer, ça certain. On couvre 70% du territoire. Le 31 décembre, si vous avez un problème, vous pourrez appeler SOS médecins. Le 1er janvier, on sera là. Mais jusqu'à quelle année ? Au bout d'un moment, les jeunes, ils préféreront aller, et c'est normal et on peut le comprendre, dans des consultations que de se déplacer à domicile.
Oui, parce
c'est plus difficile.
En cabinet, entre quart d'heure, ils ont 2 à 3 consultations.
Ils ont un peu plus de turnover, ils ont un peu plus de possibilités de voir un peu plus de patients. Donc oui, l'exercice de ce médecin, il est difficile, mais il faut qu'il soit attractif. Donc il faut qu'on arrête de croire que les médecins de ce médecin sont des médecins de seconde zone. Parce que moi, c'est ce que j'entends en filigrane, quand j'entends Olivier Véran, finalement, un peu nous mépriser, nous mettre de côté en disant « Non, non, mais ce médecin, vous êtes bien gentil, vous nous avez un peu aidé pendant le Covid. Hein. » Franchement, je vous assure, cette période de Covid, moi, je ne l'oublierai jamais. Je me suis posé la question avec ma femme à un moment, pendant que l'épidémie flambait, on n'avait pas de vaccin à l'époque, hein, ça change la donne. Est-ce que ça vaut le coup encore d'aller tous les jours, je changeais mes vêtements parce que j'avais peur de ramener le virus.
En Seine-Saint-Denis, vous...
Mais partout, moi, je travaillais dans l'Est parisien et en Seine-Saint-Denis. Et j'ai vu des choses qui m'ont un peu pas traumatisé sur le Covid, mais je me dis, ok, je l'ai fait, j'ai continué, même si je me suis dit, peut-être je vais attraper le virus et je vais le transmettre à mes proches. Et puis c'est comme ça qu'on nous remercie à la fin. Franchement, c'est pas acceptable.
L'autre risque de la disparition de la médecine à domicile, c'est une médecine à 2 vitesses.
À 2 vitesses ou même à 10 vitesses. Vous aurez ceux qui pourront encore avoir SOS médecin, notamment, on parle beaucoup de Paris. Paris, c'est un désert médical. On entend souvent Paris, il est favorisé, Paris, c'est vrai. Paris est une zone de désert médical. Allez travailler dans le 20e, dans le 19e.
Et pour les spécialistes.
C'est-à-dire, exactement. Ouais. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin de votre médecin traitant. Les médecins traitants, ils sont débordés. Ils ont plein de choses à faire, plein de tâches administratives. On devrait peut-être leur donner un peu plus de temps médical et un peu moins de temps administratif. Mais derrière, si vous êtes malade, votre médecin traitant, il ne peut pas vous prendre le jour même. Il peut vous prendre au bout de quelques jours. Ou s'il vous prend, vous allez attendre 6 heures dans une salle d'attente. Donc vous allez finir soit par laisser tomber. Et donc, même ça, on se rend compte qu'on n'est pas si privilégié que ça, qu'il faut donner un coup de collier et un effort supplémentaire pour que la visite à domicile, le but, c'est de rendre une mission de service public. Et on l'oublie, SOS Médecins fait aussi plein de trucs à droite et à gauche. Dans un commissariat, les médecins des SOS Médecins vont aussi faire des certificats lorsque la personne va être en garde à vue, pour dire que tout va bien. Mmh. Donc on agit dans plein de pans de la société, c'est parfois difficile. Moi, je suis fier d'être médecin, mais encore plus d'être médecin SOS Médecin. Mais il faut donner les moyens aux médecins de travailler correctement.
Vous écoutiez très attentivement, Raphaël.
Oui, c'est passionnant. Oui, absolument. C'est passionnant, mais je suis plein d'admiration et de respect pour les médecins. Et je les trouve merveilleux. Ils arrivent même quand ils arrivent dans la nuit, c'est vraiment le ciel qui les envoie. C'est le ciel qui les envoie. Après, je m'étonnais du faible montant des consultations, parce qu'il me semblait que c'était à la discrétion du médecin et qu'il arrivait que ce soit plus cher aussi.
Alors, le soir et le week-end, évidemment, c'est plus cher, c'est régulé et c'est conditionné par la Sécurité sociale. Mais si vous regardez les chiffres, sur 15 ans, la visite n'a absolument pas été revalorisée. Ouais. 15 ans, on reste à 10 euros de majoration. Et d'ailleurs, je parle des médecins SOS médecins, mais regardez ce qui se passe pour les infirmières à domicile qui enchaînent les tournées, qui, elles aussi, ne sont pas considérées pour 2 ou 3 euros, elles vont faire un déplacement. Donc là aussi, il faut revoir tout le système de maintien à domicile, puisque finalement, le meilleur des EHPAD, c'est la maison.
C'est le système de soins, en fait. Mm. C'est la notion de soins qui n'est pas encore suffisamment entrée dans les consciences. Comme si on vit sous le système de la guérison ou de la maladie, de cette alternative. Mais il y a des tas de choses dont on ne peut pas guérir. Il y a des tas de choses avec lesquelles on doit apprendre à vivre, et c'est là que le soin intervient. Et c'est tout ce qui entre dans cette catégorie-là qui demande manifestement à être revalorisé.
Merci Jimmy Mohamed. Le magazine de la santé, c'est tous les jours à 13h40 sur France 5. Merci d'être venu. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire ce soir.
Emmanuel Macron annonce la défiscalisation des pourboires payés par carte bleue. Réaction de professionnels à suivre, on va vous expliquer. Panic Monday à la une des tabloïds britanniques. Pénurie de carburant outre-Manche. Vous allez comprendre ce soir pourquoi c'est une conséquence du Brexit. Et puis enfin, à la fin du 5 sur 5, le point commun entre Bob Marley, Kermit la grenouille et la pop coréenne.
Enfin, le président de la République défiscalise les pourboires.
4 clients sur 10 laissent un pourboire en France. Alors si je demande autour de la table, évidemment, tout le monde va me dire, tout le monde va se déclarer extrêmement généreux, ça va de soi. Alors même chez ceux qui donnent, il y a ceux qui se débarrassent des pièces rouges au fond de la poche, il y a ceux qui calculent méticuleusement 5, 10, 15%, et puis ceux qui arrondissent par carte bleue. Et c'est précisément de ce pourboire dont le président a parlé, en marge du Salon international de la restauration. Aujourd'hui, quand un pourboire est versé en carte bleue, les revenus sont déclarés, chargés et imposés. Ce sera donc bientôt à 100% dans la poche du personnel.
L'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse au restaurant payer le pourboire avec la carte bleue, l'arrondi ou plus, parce qu'on l'a vu en sortie de crise, nos compatriotes utilisent de moins en moins le liquide. Deuxièmement, que ces pourboires soient sans charge pour les employeurs que vous êtes, et que ces pourboires soient sans impôt pour les salariés qui les reçoivent. Ce qui va permettre d'ajouter au pouvoir d'achat de ces derniers.
Louis Amar et Camille Schmitt ont voulu rencontrer des serveurs pour savoir si la nouvelle les réjouissait, mais ils n'ont pas voulu témoigner face à la caméra. Je m'explique. Dans une quinzaine de restaurants, on leur a répondu qu'ils ne déclarent déjà pas leur pourboire, que ça ne changeait donc rien, et forcément, ils ne voulaient pas témoigner à visage découvert. Écoutez les explications de ce maître restaurateur.
Le fait d'enlever un risque potentiel qui concernait très 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 peu de cas, c'est toujours satisfaisant et donc c'est bien d'enlever ce risque, mais en pratique ça ne va ni inciter les clients à donner plus de pourboires, ni permettre aux collaborateurs de gagner plus d'argent. Non, les gratifications ne se déclarent pas, évidemment, et donc les pourboires n'étaient pas fiscalisés aujourd'hui, ils ne le seront pas demain, donc ça ne va pas changer grand-chose.
Donc en fait, le président défiscalise quelque chose qui n'était pas fiscalisé de fait.
Qui était très marginalement fiscalisable, mais pas contrôlable. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça va libérer un risque, ça c'est toujours bien. Ça sera loin de régler le problème d'attractivité de nos métiers, en salle et encore moins en cuisine.
L'enjeu, c'est aussi de rendre le métier plus attractif. L'hôtellerie-restauration souffre aujourd'hui d'un manque de personnel, mais la mesure semble ne pas suffire aux yeux des professionnels.
J'aimerais que ce soit le cas, je ne pense pas que ça sera le cas. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui notre métier est moins attractif. Il faudra apporter des réponses multiples pour répondre aux réticences de nouveaux collaborateurs à rejoindre ce beau métier ou pour maintenir ceux qui sont en poste dans une carrière plus longue.
Et en plus, la mesure qui a été décidée aujourd'hui ne porte que sur une partie du personnel qui travaille dans la restauration finalement.
Alors effectivement, les pourboires, ça concerne les serveurs, ça ne concerne pas les cuistots, les personnels de cuisine, tout l'ensemble du personnel qui travaille dans le restaurant. Donc c'est à peu près la moitié des gens qui sont concernés par les pourboires. Et donc, il faut se poser la question dans la globalité pour tous nos métiers et pour tous nos collaborateurs.
Le président de la République a précisé ce matin que la mesure entrerait en vigueur dans les prochains mois.
En Grande-Bretagne, on ne manque pas tant de serveurs que de conducteurs routiers et on craint de multiples pénuries.
Alors d'abord, le nerf de la guerre, l'essence, le carburant, des stations à sec, d'autres avec des limites d'achat, des plafonds. À Londres, l'exécutif se veut rassurant.
And then there's actually plenty of petrol to go around. This is an unnecessary situation where there are queues that are forming, even though we have all the fuel that we need in the refineries and storage centres in the UK.
Et pourtant, il y a bien des stations-service fermées. L'Association britannique des revendeurs d'essence parle de 50 à 85% de stations à sec. Je vous l'accorde, c'est une grosse fourchette, 50 à 85%. Mais regardez la une du Sun aujourd'hui. Panic Monday, je ne traduis pas. Nous remarquerons juste que ce monsieur sur le côté gaspille de l'essence alors qu'on semble en manquer, en versant à côté du jerrycan. Ça, c'est un commentaire personnel. Le problème, vous le connaissez bien, c'est la prophétie autoréalisatrice. On a peur de manquer, alors on prend plus d'essence qu'à l'accoutumée. Et mécaniquement, ça crée une tension sur les stocks.
And I have been to at least five different service stations across.
I've been here nearly an hour waiting for my turn to fill up the car. It's really frustrating. I am a driver.
Look at that. It's empty. How am I going to get to work on Monday?
The media seem to suggest there's not a shortage, but really there isn't anyway. But it's just people get worried. Oh, I must get diesel, must get petrol.
It's stupidity that we're all queuing up, but this is my job, so I have to have diesel.
Le gouvernement a même évoqué l'idée d'un recours à l'armée pour conduire les camions. Finalement, ce ne sera pas pour tout de suite.
No plans at the moment to bring in the army to actually do driving, but we always have a civil contingencies section within the army that's always on standby should they be needed, but we don't judge that's necessary at the moment.
L'essence, le carburant, c'est ce qui fait peur, mais en réalité, toutes sortes de pénuries frappent actuellement le Royaume-Uni. Voilà déjà plusieurs semaines que les rayons ne sont pas approvisionnés normalement. Et la question à 1000 pounds, y aura-t-il de la dinde à Noël ? Course alimentaire, jouets, on commence à craindre une véritable pénurie d'approvisionnement. Ce qui cause cette pénurie ? Une autre pénurie en réalité, on manque de conducteurs routiers, de camionneurs. Partout en Europe, le métier n'est plus assez attractif. Et le Brexit pour le Royaume-Uni particulièrement n'aide pas. Les conducteurs de l'Est rentrés chez eux pendant la pandémie ne sont pas revenus. Et entre-temps, le Brexit a durci les règles d'entrée sur le territoire.
Les anciens quittent ce travail. Ils partent à la retraite et on n'a pas assez de monde qui vient répondre à la demande.
Les conducteurs de poids lourds ne sont pas considérés comme des travailleurs qualifiés. Donc le gouvernement britannique ne nous permet pas de recruter de main-d'œuvre européenne.
Alors le gouvernement a annoncé aujourd'hui 5000 visas de travail pour la période qui nous mène aux fêtes de Noël pour les conducteurs. Également 5500 permis de travail dans les métiers de l'élevage et de l'abattage de volailles. Voilà pour la table du réveillon.
Du camion citerne au camion poubelle.
Oui, et du Royaume-Uni aux Bouches-du-Rhône. À Marseille, on ne manque pas de conducteurs, ils sont juste en grève. Grève des éboueurs depuis jeudi. En cause, la réforme de la fonction publique qui prévoit de les faire travailler 2 heures de plus par semaine. Des négociations sont en cours, mais les syndicats menacent d'un mouvement plus dur. Les déchets qui s'accumulent, comme vous venez de le voir, ça peut poser un autre problème de salubrité publique et attirer des animaux nuisibles. Vous avez peut-être déjà vu ces images. On quitte Marseille pour l'Italie. Des sangliers italiens qui n'ont pas peur d'approcher les habitations. Alors évidemment, celle-ci est collector, c'est une des plus impressionnantes, le cochon qui tente la brasse. La vidéo a quelques mois, cela dit, je dois être honnête. D'autres images plus récentes, celles-ci, elles sont de la semaine dernière. Petite promenade de maman sanglier et de ses marcassins en pleine ville, non, en banlieue nord de la capitale italienne. Regardez, il marche sur le passage clouté.
Ça, c'était la semaine dernière.
La semaine dernière, dans une banlieue au nord de Rome. Des sangliers
qui tiennent très bien. Hein.
Oui, 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 ils sont très bien élevés.
En deux par deux.
En deux par deux et tout. Oui. Alors, des sangliers tiennent mieux que nous.
Qui deviennent un enjeu politique. Élection municipale début octobre et la maire de Rome s'est illustrée dans la défense de la cause animale. Alors ses opposants se jettent sur cet afflux de sangliers. Regardez ce que dit cette opposante de droite. À Rome, des sangliers, des rats de la taille de Labrador, des mouettes tueuses, nous avons tout vu. Sans doute un peu d'excès hein, pour les rats Labrador, mais pas pour les mouettes tueuses. Ça remonte à 2014. Regardez, le pape avait organisé un lâcher de colombes place Saint-Pierre et cette pauvre petite colombe s'était faite attaquer par un goéland. Voilà pour l'histoire complète.
On quitte Rome pour Saint-Marin.
Je le rappelle, Saint-Marin, tout petit pays enclavé en Italie à moins de 200 km de Florence, pays de 60 km² et 33 000 habitants. Saint-Marin, dont on parle assez peu hein, en général, c'est vrai.
Et pas Saint-Martin.
Parce que ah non, Saint-Marin. Saint-Marin, oui. Merci de la précision.
Pas au même endroit.
Saint-Marin, je le disais, dont on parle assez peu, on devrait en parler plus souvent, et qui vient d'autoriser l'avortement à 77% dans un pays à très forte tradition catholique.
C'è un fatto storico a San Marino oggi finalmente, perché con questo referendum, con la vittoria che abbiamo appena raggiunto, ben al di là delle nostre più ottimistiche aspettative, il paese finalmente fa un progresso, dimostra che la cittadinanza è più avanti della politica.
Ma oggi si è fatta la storia perché a scegliere è stato il popolo, e dove la politica non è arrivata, c'è arrivato il popolo, ha scelto di uscire da una situazione medievale che San Marino viveva da centinaia di anni.
Saint-Marin, qui suit sa grande sœur italienne avec 43 ans de retard en Europe, il ne reste que 3 pays qui n'autorisent pas l'IVG, Malte, Andorre et le Vatican. Un autre petit pays d'Europe avec beaucoup plus d'avance sur les droits des femmes, l'Islande. Alors même si c'est d'abord une fausse annonce à laquelle on a eu droit, l'Islande a été pendant 9 heures le premier pays européen à se doter d'une assemblée majoritairement féminine. Et puis finalement, non. Après recompte des voix, finalement, il n'y a plus une majorité de femmes, je suis désolé. 47,6% de députés et EES. Oh. Ce qui reste un record européen, cela dit, c'est devant la Suède. Aujourd'hui, je le précise aussi, seuls le Rwanda, Cuba et le Nicaragua ont des assemblées majoritairement féminines.
Si on parle d'élections ce soir...
C'est pas un gage de démocratie, tiens.
Non, pas forcément, effectivement.
Si on parle d'élections ce soir, forcément, on parle d'Allemagne.
La victoire de la gauche, du SPD, d'une courte avance sur la droite et les héritiers d'Angela Merkel. Un taux de participation élevé et le mieux placé pour devenir chancelier, c'est Olaf Scholz.
Ich freue mich, so viele hier zu sehen. Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht. Und das ist ein großer Erfolg.
Alors la réalité, c'est qu'il faudra composer à plusieurs, nous le disions ici même vendredi, il faudra compter avec les Verts et les Libéraux. Le candidat de droite, Armin Laschet, garde l'espoir de former une coalition et de succéder à Angela Merkel.
Zum ersten Mal seit 16 Jahren hat Angela Merkel
nicht mehr als Bundeskanzlerin kandidiert. Das waren 16 gute Jahre für Deutschland. Und deshalb gilt mein erster Dank der Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Arbeit. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wird erstmals, aller Voraussicht nach, eine Bundesregierung mit drei Bündnispartnern geben können.
Vous avez pu voir l'hommage à la chancelière. On parle de négociations qui pourraient durer jusqu'à Noël. En novembre, Angela Merkel battrait le record de longévité d'Helmut Kohl. Mais elle a déjà sans doute un pied dans sa retraite, Angela Merkel, en fin de semaine dernière. Pardon, qui commence à se lâcher. Je me suis dit que l'image vous plairait. Plus sérieusement, Raphaël Enthoven, en Allemagne, on vote, 76% de participation. Gros contraste avec la France. Die Linke, à gauche, et l'AfD, à l'extrême droite, voient leurs résultats baisser. En Allemagne, qu'est-ce que ça dit de nous, cette baisse des extrêmes ?
Alors, je ne sais pas ce que ça dit de nous, je sais ce que ça dit d'eux. Ça les honore, mais je ne suis pas compétent sur l'Allemagne. Donc, je vous en parlerai comme n'importe qui pourrait le faire. Donc, mais je m'en réjouis. Moi, je ne vois qu'une bonne nouvelle dans le fait que plus on s'approche des extrêmes, plus on diminue, tant mieux. Enfin, la démocratie se porte bien, manifestement.
L'Assemblée
générale
des Nations Unies.
Exactement, Babette, avec un discours du week-end qui devient viral. Discours de la première ministre de la Barbade. Elle s'appelle Mia Motley. Je vous propose d'écouter le début de son intervention.
If I use a speech prepared for me to deliver today, it would be a repetition. A repetition of what you have heard from others and also from me. Equally, how many more times will we then have a situation where we say the same thing over and over and over to come to naught? My friends, we cannot do that anymore.
Début alors d'un discours qui se veut improvisé, en tout cas différent de ce qui était prévu, un discours aux références surprenantes.
In the words of Robert Nesta Marley, who will get up and stand up? Who will get up and stand up for the rights of our people? Who will stand up in the name of all those who have died because of the climate crisis? If we can find the will to send people to the moon and solve male baldness, as I've said over and over, we can solve simple problems like letting our people eat at affordable prices. Get up.
Bob Marley cité à la tribune de l'ONU, c'est assez rare. Il y a encore plus original, une autre image, celle des stars internationales de K-pop, les Coréens de BTS, venus porter la parole de la jeunesse sur la protection de la planète. Pour défendre l'environnement, parfois, il faut faire quelques détours. Regardez.
When Kermit the Frog sang, it's not easy being green.
It's not easy being green.
I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is. And it's right to be green. He was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought. Kermit the Frog.
Tout ça à la tribune de l'ONU.
Oui, Kermit la grenouille, Bob Marley. Mais en tout cas, on a écouté les discours jusqu'au bout. Merci beaucoup Mathieu Béliard. Merci beaucoup Raphaël Enthoven. Merci Jimmy Mohamed. Dans un instant, à notre table, à la table du dîner, Vanessa Paradis qui est en route. Elle est dans un taxi, figurez-vous. Elle est donc un petit peu en retard, mais on a bon espoir de la retrouver dans quelques secondes. À ses côtés, Eric Elmosnino qui lui donne la réplique au théâtre. C'est absolument formidable. Une pièce de Samuel Benchetrit qui s'appelle « Maman ». Et Ramzi Bedia sera également notre invité. Le Vu, les actualités de Bertrand, la story média de Mohamed Bouafsi. J'ai oublié personne. Alors ça veut dire qu'on est prêt. On vous attend. À tout de suite.